Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un sujet politiquement et humainement sensible. Deux semaines après l'incendie du camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos, la Commission européenne présentait aujourd'hui son projet de réforme de l'asile et des migrations en Europe. Pourquoi ? Parce que le vieux système de gestion ne fonctionne plus, expliquait sans embâge la présidente de la Commission européenne. Depuis 2015 et l'afflux de réfugiés en Europe, ce système s'est fracassé sur le refus de plusieurs pays d'accueillir les réfugiés. Le règlement de Dublin est aussi et aussi l'accueil des bateaux d'ONG assurant le sauvetage en Méditerranée. Va-t-il enfin y avoir une solution européenne viable pour les migrations ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans ce studio. Nous recevons Didier Lesky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est chargé de traiter les demandes d'asile en France. Et également Pierre Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions d'asile et chercheur associé à l'IPSE. Et par téléphone, Yves Pascoe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des politiques d'asile, d'immigration et d'intégration, directeur des programmes Europe de l'association Respublica. Je vais commencer par faire un tour de table. Didier Lesky, que retenez-vous du plan qui a été présenté aujourd'hui ?
Ce que je retiens du plan, c'est la difficulté de trouver un accord avec un certain nombre de pays, parce que il y a des questions très précises qui ne sont pas simples à résoudre. Aujourd'hui, la difficulté de ce plan, c'est que il n'y a pas de répartition automatique entre les différents États. Mais pourquoi il n'y a pas de répartition automatique de ceux qui arrivent, soit par la mer, soit par terre, soit du reste par les airs ? C'est parce que une partie de ceux qui arrivent ne relève pas de la Convention de Genève. Et donc d'un besoin de protection au sens de la Convention de Genève, et que ces personnes-là, il y a une difficulté à les reconduire dans leur pays, et ce qui est demandé, si j'ai bien compris, aux États qui ne participeront pas à la répartition, c'est de participer au financement de la reconduite à partir des pays d'arrivée. Voilà. Mais au-delà, il y a, je pense, tout un chemin de discussion entre États, et ça va prendre du temps, puisque la caractéristique des procédures européennes, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de consensus, si ce n'est de majorité qualifiée.
Pierre-Henri, quel est l'esprit de ce plan, selon vous ?
Écoutez, d'abord, l'exercice est très difficile pour la Commission européenne. Le plan Asile et Migration, c'est un exercice de haute voltige dans une Union européenne qui est profondément divisée. Et j'ai envie de vous dire, à travers ce plan, ou plus exactement une note d'intention de la Commission européenne, qu'on fait pas du neuf avec du vieux, parce que la Commission européenne recycle pratiquement intégralement des idées qui ont été déjà présentées en 2016, qui n'ont pas abouti pour un certain nombre, et puis qui, en réalité, la Commission prend le chemin le plus facile, c'est-à-dire le chemin coercitif qui correspond à l'état de l'opinion majoritaire dans l'Union.
Yves Pascoe, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce plan ? Est-ce qu'il y a une plus grande sévérité ? Ce que vient de dire à l'instant Pierre-Henri ?
Oui, parce que je pense qu'on peut dire qu'il faut que tout change pour que rien ne change en réalité. C'est que la Commission a fait un très gros travail et il faut lui reconnaître cela dans un contexte, comme ça a été dit, assez difficile. Mais finalement, les lignes politiques qui se sont dessinées après 2015 restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on a quand même une focalisation très forte sur le contrôle des frontières extérieures, sur la question du retour. Et pour ce qui concerne l'asile, on voit bien qu'il y a une forme de glissement assez inquiétant où on a donné quitus à ceux qui étaient opposés à la réception des demandeurs d'asile dans des cas particuliers en leur disant « vous pouvez ne pas accueillir de demandeurs d'asile ou des réfugiés, mais en contrepartie, vous participez au retour ». Et d'une certaine manière, c'est là la victoire des opposants à une Europe qui respecte et renforce les droits fondamentaux et le droit fondamental qui est celui de demander l'asile.
Je vais rebondir là-dessus, Didier Lesky. Les pays ont le choix entre accueillir des migrants ou parrainer le retour au pays, c'est-à-dire, pour le dire prosaïquement, payer les procédures d'expulsion.
Oui, on peut s'arrêter à ça, mais de toute façon, ceux qui débarquent en Italie ou en Espagne, si vous voulez, leur aspiration, c'est pas d'aller en Hongrie. Donc,
mais oui, parce qu'il faut peut-être les nommer ces pays. Hein, c'est les pays du groupe de Visegrád, Hongrie, Pologne, Bulgarie. Voilà.
Et donc, c'est un peu une fausse question de savoir si on repartit, si on va répartir ou pas. D'une certaine manière, on sait bien que l'essentiel de la demande d'asile se concentre dans quelques pays qu'on peut appeler les anciens pays de l'Europe de l'Ouest, si vous voulez, hein, et ne vont pas dans les pays de l'Est où il y a une migration qui existe, une migration de travail, mais qui est plus le fait, par exemple, en Pologne, d'Ukrainiens, des nationalités qui sont plus proches de ces pays. La deuxième chose, c'est que les Européens sont confrontés au problème suivant, et c'est particulièrement le cas de la France, c'est que nous avons une demande d'asile dont on sait parfaitement, dès le départ, qu'elle ne relève pas de l'asile.
Qu'elle ne sera pas recevable. C'est vrai.
Oui, mais qu'elle relève, je ne dis pas qu'elle ne relève pas d'un autre besoin, qui peut être un besoin social, économique, mais qui ne relève pas de l'asile. Bon. Et dans une période où on a quand même dans un certain nombre de pays, et la France en fait partie, une crise économique qui s'annonce et une crise sociale qui s'annonce, la difficulté qui est devant nous, c'est comment faire en sorte de bien accueillir, de traiter le plus vite possible les demandes d'asile, et pour après intégrer ceux qui vont obtenir une protection, c'est-à-dire qui vont obtenir un statut de réfugié, et pour reconduire ceux qui n'obtiendront pas le statut de réfugié. Parce que, bien évidemment, dans ces discussions, il y a toujours un non-dit qui est-ce que tous ceux qui débarquent ont le droit de rester ? Voilà. Et en fonction de la réponse, on a une attitude différente. Mais si on dit tous ceux qui débarquent ont le droit de rester parce qu'au fond, c'est un mouvement de demande d'asile malgré tout, eh bien, on n'aura jamais un consensus dans l'ensemble des pays européens.
Pierre-Henri, je continue sur cette idée. Pardon, Yves Pascaux, vous voulez ajouter quelque chose?
Je dis, c'est un petit peu simplifié le discours. Je pense que autour de cette table, même si je ne suis pas avec vous, on ne dit pas ceux qui rentrent ont le droit de rester. Moi, ce que je dis en tout état de cause, c'est qu'il y a un ensemble de droits qui réglementent les procédures et que ceux qui rentrent ont droit à avoir des droits. C'est tout simplement le principe de l'état de droit et je pense qu'il faut garantir et rétablir ces personnes-là dans les droits. Mmh. Ensuite, la question qui est de dire mais ils ne veulent pas aller en Hongrie. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller en Hongrie? Parce que la Hongrie a quand même tout mis en œuvre pour leur démontrer qu'ils n'étaient pas les bienvenus et que la Hongrie n'allait pas mettre en place l'ensemble des droits élémentaires qui doivent être reconnus aux demandeurs d'asile. Ils ne vont pas en Hongrie, mais ils vont en Suède. Or, la Suède n'est pas non plus l'endroit le plus exotique de l'Union européenne. Et pourtant, les demandeurs d'asile, parce qu'ils savent qu'ils y sont accueillis et qu'ils bénéficient des droits élémentaires que leur reconnaît la législation européenne notamment, ils vont sans coup faire. Donc, c'est pas non plus la question de savoir s'ils veulent aller en Hongrie, en Pologne ou ailleurs, c'est aussi l'attitude de ces États qui ont démontré depuis très longtemps leur réticence et leur volonté de ne pas accueillir.
Alors, Pierre-Henri, à vous.
Oui, alors, il est vrai que si Sébastien Kurz, le chancelier autrichien ou Viktor Orban fronce les sourcils, derrière, la Commission européenne a quand même tendance à se mettre au garde-à-vous. C'est vrai que...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions, il faudrait qu'il y ait des sanctions, c'est
mais,
ça
mais moi, je pense que l'unité est impossible, la recherche de consensus est impossible à 27, et qu'il faut évidemment des majorités de projets autour de la question de l'asile et de l'immigration, comme autour d'autres projets. Mais en respectant évidemment le corpus de droit que représente aujourd'hui... le droit d'asile. En fait, la Commission a fait un certain nombre de propositions qui sont autant d'usines à gaz. Sincèrement, proposer par exemple la création de hotspots à l'intérieur de l'Union, sur les frontières de l'Union.
Voire même à l'extérieur,
pour les personnes dont la nationalité n'aura pas atteint un taux de reconnaissance de 20%, mais c'est tout simplement multiplié par 10 les situations qu'on connaît à Moria, à Lesbos. Donc ça ne tient pas. À côté de cela, il y a des propositions qui ont été formulées par les chercheurs, par la société civile, et qui n'est nullement explorée dans cette période de populisme exacerbé.
Didier Lesquy, vous vouliez répondre à Yves Pascuo.
Non, c'est pas que je veux lui répondre, c'est que...
Ou ajouter quelque chose.
La question migratoire a mis depuis des années en lumière les limites de la construction de l'Union européenne. C'est ça qui est en train de se passer. Ces limites, c'est le fait que dans son extension, aujourd'hui à 27, sont rentrés dans des pays qui n'ont pas la même histoire que les autres du point de vue de l'immigration, qui n'ont pas la même histoire du point de vue des droits de l'homme et du citoyen, et qui du coup ont pris un poids dans l'ensemble européen qui finit par faire dévier cet ensemble. Voilà. Mais la contradiction de beaucoup, je crois, c'est que il y a eu une croyance pendant très longtemps que la construction de l'Union européenne allait nécessairement amener ces pays vers plus de démocratie et plus de prise en considération de ce qu'on pense être nos valeurs, comme ça a été le cas à un moment donné avec l'Espagne et le Portugal, au lendemain de la mort de Franco et de la chute de Salazar, mais que ce n'est pas vrai de l'autre côté de l'Europe. Et en même temps, les pays de l'autre côté de l'Europe, ils ont un poids économique et... Dès lors qu'on les a acceptés, on est obligé de prendre en compte leur point de vue. Voilà. Et il n'y a pas de sanction possible, si ce n'est quoi ? Peut-être leur dire à un moment donné, c'est ou vous acceptez notre cadre philosophique ou vous partez. C'est ça la contradiction de la Commission.
Alors, j'essaie de reprendre le fil de ce que j'avais essayé de lancer tout à l'heure. Yves Pascuo, ça signifie que ce sont toujours les pays en première ligne, Italie, Grèce, Malte ou Espagne, on va les citer aussi, qui le seront toujours, ou est-ce que ça va changer ?
De toute façon, la géographie fait que ils vont être en première ligne et ils vont demeurer en première ligne. Ensuite, on a beau nous dire et nous raconter à longueur de journée qu'on va abroger Dublin, j'ai envie de dire Dublin est mort, vive Dublin, parce que Dublin n'est absolument pas abrogé. Dans les textes qui sont présentés, Dublin continue à exister sous la forme, de manière générale, qu'il a toujours connu, c'est-à-dire qu'au bout du compte, en pratique, c'est la responsabilité de l'État de première entrée qui va être engagée. Et donc, on essaie, en réalité, de trouver des mécanismes qui vont permettre de réagir, d'essayer d'organiser ou de réagir à l'urgence. Mais comme disait Pierre-Henri, je suis assez d'accord là-dessus, c'est que quand on essaie de se plonger dans les centaines de pages de textes qui ont été présentées aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'on a une forme, effectivement, d'usine à gaz et de dispositifs qui sont assez importants. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on arrive à voir les limites de la construction de l'Union européenne. C'est pas tant non plus le nombre qui fait. Je suis assez d'accord avec Didier Lesquy sur la fracture qui est apparue, notamment en termes de conception des questions migratoires, sur le multiculturalisme ou pas. Mais derrière ça, c'est aussi la faillite des États européens qui se sont entendus pour avoir un marché intérieur, c'est-à-dire un espace sans contrôle aux frontières intérieures, sans faire le pas supplémentaire de considérer que l'espace Schengen postule à minima la coordination et sinon l'harmonisation de toutes les politiques. Or, aujourd'hui, on a harmonisé de manière très importante la politique des contrôles. On essaie de faire en sorte que la politique d'asile soit elle-même harmonisée. Mais tout ce qui relève de l'autre partie de la politique migratoire, tout ça est resté en friche. Donc, on a en réalité un dispositif qui est totalement bancal parce que sur le terrain de la souveraineté des États, notamment, on n'a pas construit ce qu'on devait construire déjà depuis 20 ans.
Alors, je rebondis sur quelque chose que vous avez évoqué, Yves Pascuo, avec Pierre-Henri. Un des points clés de cette réforme, c'est la volonté européenne affichée, en tout cas, de supprimer ce que l'on appelle le règlement de Dublin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quelles en sont les conséquences ?
Oui, alors le règlement Dublin, qui est entré en vigueur en 1997, c'est pour un certain nombre d'Européens un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. On ne sait pas comment s'en débarrasser. Et je suis assez d'accord avec Yves Pascaud. Le règlement Dublin va continuer. C'est-à-dire ce règlement qui est asymétrique et qui fait porter sur les États qui ont la charge de la surveillance des frontières extérieures, eh bien, le soin d'examiner les demandes d'asile. Et ça sera toujours la même attitude que celle qui prévaut depuis 20 ans, c'est-à-dire le jeu de la patate chaude pour l'ensemble des États membres de l'Union. Vous savez, l'Espagne, Chypre, la Grèce ont très bien compris et depuis longtemps ce qu'il convenait de faire ou de ne pas faire, c'est-à-dire notamment de ne pas enregistrer les demandes d'asile dans le pays de première entrée. Par exemple, l'Espagne, si vous regardez la situation, elle a un peu changé sur les dernières années, mais dans toute la décennie 2000, c'était moins de 10 000 demandes d'asile par an. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les autorités espagnoles...
Laissaient passer vers la France aussi.
Laissaient passer vers la France ou vers d'autres pays, parce que vous avez une asymétrie. Et d'une certaine manière, chacun s'accommodait de ce système très imparfait, tant que on était à bas bruit. La crise migratoire qui est derrière nous, il faut le rappeler, de 2015... est venu rappeler que ce système dysfonctionnait totalement et que nous nous étions enfermés dans des procédures policières totalement inefficaces.
Didier Leschi, effectivement, est-ce que la Commission et l'Union européenne essayent, à un moment où la pression migratoire est moins forte, de trouver un nouveau règlement, de profiter de cette situation en se disant que peut-être ça marchera mieux?
Alors, on peut dire que la pression migratoire est moins forte, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit... on a dit qu'une partie des choses, parce que le problème, il est le suivant, c'est qu'il y a des pays où il reste une pression migratoire, parce que ce sont des pays qui accueillent beaucoup plus facilement que d'autres. La France en fait partie, mais en même temps, la France est un pays où il y a une crise sociale, une crise économique, une crise du logement. Hein, un pays comme la France se trouve confronté au fait que dès lors qu'il n'y a pas de solidarité vraiment des autres pays, mais que malgré tout, elle a un système social global qui est accueillant, eh bien, elle a une arrivée qui reste suffisamment forte. Les premières nationalités qui débarquent en Italie, je le rappelle, ce sont les Tunisiens. Hein, la France, c'est 10% des nationaux tunisiens qui y vivent. Hein, je ne parle même pas des doubles nationaux.
Ce que vous voulez dire, c'est que 10% de ceux qui ont la nationalité tunisienne, donc Tunisie comprise,
vivent en France.
Ouais.
Bien sûr. Ouais. Les Algériens sont aujourd'hui la première nationalité qui passe en Espagne. Hein, et donc, on a quelque chose qui est le suivant, c'est que si les autres pays n'acceptent pas, d'une certaine manière, de financer l'intégration ici, hein, de participer à l'effort commun d'intégration, eh bien, ça reste à la charge d'un unique pays, parce que ou de l'Allemagne ou de la Suède, parce que on est dans une situation de, je dirais, à la fois d'hypocrisie et d'égoïsme général.
Pierre-Henri.
Oui, ceci dit, par rapport à la population, c'est quand même Chypre, Malte, la Grèce qui sont les plus impactés. C'est pas la
Chypre,
France
ou
l'Allemagne.
On n'a pas un système qui donne les mêmes droits sociaux.
Et en tout cas, si je compare la France et l'Allemagne, il y a une grande différence entre les deux pays, c'est la dignité. En France, la moitié des demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire national transitent par la rue. Et donc, ça pose une véritable difficulté.
Alors, Yves Pascaud, parmi les objectifs, il y a une accélération des procédures d'étude des demandes d'asile. Ça, c'est nécessaire aujourd'hui ? C'est trop long ?
Oh, mais de toute façon, ça fait à peu près 15 ou 20 ans qu'on dit que l'examen des procédures d'asile est trop long. Il est trop long, effectivement, pour deux raisons. Enfin, il faut l'accélérer, et chacun est tout à fait conscient de cela. D'une part, pour que la personne qui est en besoin de protection accède rapidement à sa protection. Et d'autre part, et ça je pense qu'il faut effectivement le dire, parce que dans un état de droit il y a un ensemble de règles, la personne qui ne relève pas de la protection internationale doit alors être prise en compte par les autres dispositifs juridiques. Soit elle peut rester sur le territoire de l'Union européenne à d'autres titres, à titre humanitaire ou de santé, soit effectivement il faut à un moment donné aussi être relativement clair sur les règles qui existent et les éloigner dans leur pays d'origine. Mais là, on a un problème, c'est que plus les procédures d'asile sont longues et plus il devient difficile d'éloigner des personnes, soit parce qu'elles sont intégrées, soit parce qu'elles font des familles, soit parce qu'elles réussissent en fait à se trouver un chemin dans les États. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que, en effet, c'est une bonne chose de considérer qu'il faille procéder ou accélérer l'examen d'une demande d'asile pour permettre effectivement d'accéder à la protection. Mais que cette accélération-là ne doit pas se faire au détriment des standards de protection. Oui. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être non plus dans des procédures expéditives. Donc tout ça est un équilibre en fait assez difficile et assez délicat à trouver. Et de toutes les manières, on le voit très bien. Ça fait 15 ans qu'on lit des rapports parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui préconisent une accélération du traitement et de l'examen de la demande d'asile. Et ça fait 15 ans qu'on n'y arrive pas, parce qu'en réalité, on est aussi face à des situations humaines complexe et qui nécessite des examens approfondis pour savoir si on accorde ou pas la protection.
Alors Didier Leschi, il y a quelques mois, la réforme de l'asile en France avait pour objectif justement d'accélérer les délais de réponse. C'est vous qui êtes chargé d'étudier ces
C'est plutôt l'OFPRA.
L'OFPRA, pardon.
Que l'OFIM et l'OFI participent de l'ensemble du processus, puisque l'OFI met en place ce qu'on appelle les services de premier accueil des demandeurs d'asile, les SPADA, et oriente après vers les guichets uniques de demandeurs d'asile.
On en est où ? Est-ce qu'on a réussi à accélérer ?
On a une diminution des délais hors Cour nationale du droit d'asile. Voilà. Et aujourd'hui, le problème est peut-être l'accélération de l'examen des recours. Mais on a affaire à une juridiction, et effectivement, il faut avoir sans doute le temps de l'analyse des dossiers, mais c'est ça qui pose problème. On a considérablement réduit l'accès à la demande elle-même, mais on est dans quelque chose qui reste à parfaire, avec un aboutissement de la procédure qui est pas simple, puisque les voies de recours existent, elles sont légitimes et il faut les traiter. Et il y a des pays où on les traite beaucoup plus vite que d'autres, sans doute aussi parce que on a par exemple une liste de pays sûrs qui est beaucoup plus étendue dans d'autres pays qu'en France. La France est un pays qui, globalement, quand on regarde nationalité par nationalité, accorde beaucoup plus facilement l'asile à certaines catégories de personnes que les pays directement voisins. C'est pour ça que la question du nombre doit être rapportée à la question du taux de protection. Et la France est un pays plutôt généreux, même si des nationalités n'ont pas souhaité venir, et c'est pas qu'on les a refusées, mais n'ont pas souhaité venir au moment où elles sont rentrées massivement en France, en Europe.
Pierre-Henri, je reprends sur les principaux points du plan qui a été présenté aujourd'hui. L'un des objectifs, c'est de rendre plus efficace le renvoi des migrants irréguliers. Ça a été évoqué ces derniers instants. Comment est-ce que vous l'analysez ? C'est un message politique ? On adhère
Oui, mais vous savez, une grande partie du pacte pour l'asile et l'immigration est basée en réalité sur des accords de partenariat avec les pays de transit et avec des leviers assez classiques autour du retour, de la réadmission et de la pression sur ces pays de transit. Et puis, il est apparemment beaucoup plus simple pour la Commission de faire consensus autour de la notion de retour, puisque c'est aujourd'hui l'angle mort sur lequel toutes les politiques migratoires échouent, que ce soit dans notre pays comme dans d'autres. Et de ce point de vue, on va voir comment on va se mettre en place le calendrier de travail maintenant de la Commission, parce que je vous rappelle que c'est un travail à trois avec le Parlement européen,
le fameux trilogue,
et avec
le Conseil.
Le Conseil. Et puis, je vous indique aussi une chose. 2021, l'Union européenne sera présidée par le Portugal, par la Slovénie, et le premier semestre 2022 par la France. Et en fait, vous voyez bien qu'il y a là un certain nombre d'enjeux sur une question qui est extrêmement clivante. Et la ligne de la plus grande pente sera vraisemblablement qu'on n'aboutira à rien avant juin-juillet 2022.
Yves Pascuot, qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement sur ce sujet du retour vers le pays d'origine ? Vous en avez un peu parlé. Est-ce que les pays d'émigration ne coopèrent pas ou est-ce qu'ils ne sont tout simplement pas en mesure de faire ?
Il existe un instrument qui permet l'éloignement des personnes en situation irrégulière qui s'appelle un accord de réadmission. Donc l'Union européenne fait de la conclusion des accords de réadmission la poutre de sa politique extérieure en disant si on arrive à conclure des accords de réadmission, qui sont des accords administratifs qui permettent le renvoi de personnes en situation irrégulière, alors on réussira à voir des retours, des événements effectifs. La grande question qui se pose, et je pense que les mois à venir vont donner les vraies orientations, c'est qu'aujourd'hui la Commission européenne a commencé à lever le voile en disant si les États avec lesquels nous souhaitons conclure les accords de réadmission sont récalcitrants, alors on va utiliser le levier de la politique des visas. On va réduire leur facilitation en matière de visa. Et pour certains, on va même rétablir une obligation de visa pour leurs ressortissants. Mais le plus important, à mon avis, à regarder, c'est comment est-ce que, et ça figure en filigrane de tous les textes présentés aujourd'hui, comment est-ce que la Commission et les États membres vont utiliser les autres politiques européennes comme moyen de contrainte. Et là, on pense évidemment aux politiques de développement, aux politiques d'accès au marché, aux politiques commerciales. Et en fait, on sent bien derrière tout ça que la Commission européenne et les États sont en train de montrer qu'ils sont prêts, par exemple, à utiliser le levier de la politique du développement pour contraindre les pays tiers à conclure des accords de réadmission. Et là, on rentre dans un champ très problématique qui est le fait d'exporter des questions d'affaires intérieures dans la politique extérieure. Et moi, de ce point de vue-là, ça me pose difficulté parce que l'aide au développement, c'est de permettre aux personnes d'avoir accès aux toilettes, à l'eau et à la nourriture.
Et donc, elles restent chez elles.
C'est-à-dire
c'est
que...
L'idée.
L'idée, c'est de dire, si vous ne contrôlez pas vos frontières, si vous ne contrôlez pas vos populations, vous n'aurez pas beaucoup d'aide au développement. Or, les deux objectifs ne sont pas les mêmes.
Didier Leschi.
Oui, mais enfin, il ne faut pas être naïf. Il faut sans doute qu'on revoie notre aide au développement, en y mettant un certain nombre d'exigences pour faire en sorte que ceux qui dirigent ces pays aient une attention beaucoup plus grande à leur peuple qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Je veux dire, c'est ça la vraie question. Et tant qu'on n'aura pas résolu la situation interne de ces pays, en particulier de leur gouvernance...
C'est ce que je voulais dire, les gens vont continuer à partir.
Voilà, et donc on a progressivement abandonné toute critique vis-à-vis d'un certain nombre de dirigeants étatiques et de leur administration, en partant du principe qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait plus se faire, et que donc qu'il fallait simplement augmenter notre part d'accueil en tirant une croix sur le fait qu'une partie des fonds qui sont donnés servent à élargir les différenciations sociales dans ces pays, et on a quelques affaires de bien mal acquis avec des associations qui sont spécialisées là-dedans, qui montrent qu'une partie de l'argent qui est donné pour le développement est en réalité détourné pour autre chose. Ce qui est en train de se passer en termes de procès en Algérie actuellement est la preuve de cela, puisque les autorités algériennes sont en train de faire des procès avec, on parle de milliards de dollars d'euros qui ont été détournés pour des achats souvent d'appartements et de propriétés foncières, et pas pour le développement de l'Algérie, alors que des jeunes Algériens sont au chômage et préféreraient sans doute rester en Algérie et travailler plutôt que de venir en France.
Alors, en quelques mots, un seul mot d'ailleurs, croyez-vous que cette nouvelle proposition va améliorer la situation, et notamment la situation des migrants, oui ou non, Pierre-Henri?
Non, et je vous dirais que 20 ans après le sommet de Tampere, qui prévoyait l'harmonisation des systèmes d'asile et d'immigration, il serait temps d'investir pour parvenir à une réelle harmonisation des systèmes d'accueil et de procédures d'asile au sein de l'UE et de les harmoniser.
Merci Pierre-Henri, merci également à Didier Lesky et à Yves Pascuo d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle l'existence du site infomigrant.net, c'est un site de France Média Monde, dont dépend RFI, de la Deutsche Welle et de l'agence de presse italienne ANSA. C'est un site d'information fiable et vérifié pour les migrants où qu'ils se trouvent. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnold Assewa à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Bonjour chez vous.